Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous pourrez pardonner mes fautes de langue. Et je vais lire mon intervention. Donc, le monde littéraire de Francesco Biamonti est un paysage de frontières. L'entité frontière contamine les territoires du Ponente Ligure, mis en récit par l'écrivain de San Biagio della Cima, qui c'est un petit village pas loin de la frontière même. Avant de commencer, je voudrais faire une petite remarque préliminaire, une considération de méthode. Dans cet exposé, il ne faut pas entendre les paysages comme le conventionnel arrière-plan sur le fond duquel se déroulent les actions des personnages humains de la narration. Il est plutôt l'expression esthétique d'un territoire vivant, d'un champ de force et d'énergie. Ruines, torrents, chemins, buissons et même les étoiles, tous ces éléments, avec les humains, composent de manière ingénieuse le tissu social du paysage. Parfois complices, parfois ennemis des traversées de la frontière, les entités non humaines qui peuplent le Ponente Biamontien peuvent soit opposer résistance, soit conspirer avec les personnages humains. Dans les romans Les paroles et la notte, par exemple, les rochers agissent comme des sentinelles de la lune pour protéger un transit secret des migrants. Il y a donc toute une obscure politique d'alliance et d'opposition, une diplomatie non verbale au-delà de l'humain. Les malheureux qui ont tenté leur chance sur les crêtes de la frontière franco-italienne savent bien combien les éléments du territoire puissent se révéler décisifs pour déterminer les résultats positifs ou négatifs du passage. Ainsi, le territoire, en sens large, s'est fait protagoniste de la narration. Après ces remarques préliminaires, on peut faire retour au thème principal de cet exposé, la frontière dans l'œuvre de Biamonti. En continuité avec un grand écrivain ligurien, Italo Calvino, j'ai défini paysage des frontières, le monde peint de manière impressionniste par Biamonti. En 1983, Calvino non seulement avait défini l'Angelo di Avrig en roman paysage, mais il en avait souligné l'intense et caractéristique pathos de la frontière, avec ses drames des temps d'histoire de guerre, de contrebande, de traversées clandestines. Calvino admirait bien l'interprétation du paysage et de la tragédie, l'interpénétration du paysage et des tragédies humaines. Pour l'écrivain de Sanremo, le roman paysage de Biamonti était donc intimement lié à la frontière franco-italienne qui le traverse. L'Angelo di Avrig était un roman paysage des frontières. Je considère que la dite définition combinatoire roman paysage des frontières peut inclure aussi Vento Largo et Les paroles et la notte. Les deux, comme l'Angelo, sont en effet liés de façon viscérale au Ponente Ligure. En effet, comme l'a souligné Enrico Fenzi, les romans de Biamonti insistent sur un territoire bien précis, les villages perchés sur les collines de la Varroia et de la Valnervia, qui ouvrent sur la mer. Ils insistent sur une région qui, depuis des siècles, est une terre de frontières. Au-delà du fondamental commentaire de Calvino, nombre de critiques ont relevé la centralité de la frontière dans l'œuvre de l'auteur. Marina Marengo, Giorgio Bertone et Tullio Pagano. Malgré d'importantes différences interprétatives, ils se concentrent sur le fait que la frontière soit une entité déterminante en vue de la spécification du monde littéraire biamontien. La frontière imprègne le paysage, le transforme dans une borderscape. Cependant, le Ponente de Biamonti n'est pas une fidèle reproduction du réel espace physique, mais distorsion créative. La prose lyrique de l'écrivain est un triomphe d'expressivité. Il géométrise ses impressions à la manière des peintres qui la met, Cézanne et Morlotti parmi les autres. Avec les mots de Massimo Quaini, Biamonti est un géographe avec le sens poétique. Il n'a aucun souci d'objectivité. Il nous donne un paysage altéré et déformé selon ses sensations et perceptions. Les lieux du roman s'estompent dans les lieux de l'âme. L'intensité des relations et des affects transfigure l'espace. Un paysage singulaire prend forme. Nous sentons la frontière si près, Pascal, là du point de vue affectif avant que spatial. Ainsi, la frontière s'approche au centre de la narration. Les distances se réduisent. Dans l'Angelo di Avrig, par exemple, le village d'Avrig est nommé après Apricale. Mais en fait, du point de vue de la localisation géographique, il est situé où il y a Grimaldi. Même dans Vento Largo et Les paroles et la notte, nous avons l'impression de nous trouver toujours là, adossés à la frontière. Malgré la frontière réelle soit effectivement plus éloignée que les lieux dont Biamonti s'inspire. L'écrivain déterritorialise les lieux et les réterritorialise près de la frontière, dans son monde littéraire. De plus, le contexte des œuvres considérées est toujours poussé vers l'ouest. Le regard des protagonistes, Gregorio, Varie et Leonardo, le double littéraire de l'auteur lui-même, paysan philosophe et poète marin, est en effet toujours tourné vers l'Occident, en direction du charmant contour rouge du massif de l'Estérel. Comme l'écrivain, ils ont la Provence dans le cœur. La projection est toute française, provençale. Donc, en considération de cette vocation vers l'ouest, le rapport avec la frontière ne peut être qu'intime et intense. L'éponente ligure mise en récit est densément peuplée avec plusieurs histoires mineures de frontières. De cette manière, grâce à leur prolifération sauvage dans le présent et dans la mémoire, le territoire devient un paysage de frontières. Le procès historique de la frontiérisation a, avec les mots de Biamonti lui-même, une incrustation géographique. Les romans biamontiens sont constamment traversés par les traversées de la frontière. Dans Vento Largo, la narration minimale se déroule entièrement près d'elle. Vary, le mélancolique protagoniste, est un gentilhomme de montagne qui fait les passeurs. En tant que fils du territoire, il connaît parfaitement sentier et pas pour dépasser et faire dépasser loin des yeux indiscrets. Il conduit en France un nombre de gens, à propos desquels il ne veut pas trop savoir. Dans un monde en décadence, envahi d'ignobles crimes quotidiens et de l'horrible spéculation immobilière, c'est relié à la noble tradition des passeurs d'âme, l'aide, peut-être, à supporter le spleen de l'existence. Les paroles et la note est un perpétuel transit caché des groupes d'Arabes, bandes de Noirs, femmes destinées au marché de la prostitution, trafiquants de drogue et surtout réfugiés kurdes. Les années 90 ont été leur époque à Ventimiglia. La blessure d'un vieux homme et l'enlèvement d'une jeune femme migrant vont affecter l'extravagante compagnie européenne de Leonardo, retirée dans un impossible buon ritiro ligurien. Dans l'Angelo di Avrig, des non spécifiées histoires mineures des frontières peuplent l'arrière-plan des événements narrés. Brigands et jeunes vagabonds rôdent mystérieusement autour des fortins de la frontière, jamais complètement démolies. Dans ce milieu trouble de trafic et crimes, Gregorio va tenter sans succès de faire la lumière sur l'obscur cas de la mort de Jean-Pierre. Dans d'autres cas, les histoires mineures des frontières sont évoquées sous la forme de l'anecdote. Les hommes se trouvent souvent rappelés dans une sorte de suspension des fragments du passé, en nourrissant ainsi une informelle mémoire populaire des frontières. Parmi ces histoires figurent des épisodes singuliers liés au portail du pas de la mort, à la frontière front militaire du temps de la guerre, à la question du rattachement, à l'exode des Juifs. Dans l'obscure histoire de la frontière, beaucoup ont été les individus et le peuple obligés à la traverser clandestinement, à la recherche de protection et d'une vie meilleure, en revendiquant ainsi son droit à la fuite à travers une pratique concrète. Plusieurs d'entre eux figurent dans les romans de Biamonti, surtout des gens qui viennent de l'Est, mais aussi des autochtones. Dans l'Angelo di Avrig, par exemple, le paysan italien Eduardo raconte que lui aussi il s'était réfugié en France à l'époque de la dictature. Aujourd'hui, les hommes comme lui sont surtout des immigrés extra-européens, qui viennent d'autres dictatures, d'autres misères, d'autres latitudes. Malheureusement, l'histoire d'exil d'un vieux paysan ligurien continue à résonner dans le présent. Quand, dans les années 90, plusieurs commentateurs prophétisaient avec enthousiasme la dissolution des frontières territoriales, le mot à contre-courant de Biamonti nous avertissait. Je cite, « Il dramma è solo all'inizio. Parecchi popoli si muovono nelle tenebre della notte. » Le drame n'est qu'au début. Plusieurs peuples se déplacent dans les ténèbres de la nuit. Ces peuples de la nuit et de la faim, comme l'auteur les appelle, sont des gens en route vers l'au-delà de la frontière, des gens en voyage, réfugiés, exiliés ou migrants économiques, ça n'importe guère. Il s'agit toujours d'un mélange de nécessités et désirs, en proportion variable. La variation dans la composition ethnique des flux migratoires reflète la géographie changeante de la guerre et de la misère. Yougoslavie, Kurdistan, Maghreb, Corne de l'Afrique, Asie mineure. Nombreuses ont été les variations sur le thème de la fuite. Les passages des migrants à la frontière franco-italienne sont toujours la manifestation locale de ce qui se passe ailleurs. Étant donné l'interconnexion de la réalité, comme la pensée écologique nous l'enseigne bien, rien n'arrive qui se ne répercute sur quelque chose d'autre. La migration est ce qu'il y a au milieu, l'événement qui relie. La frontière, où le flux peut se solidifier à cause des contrôles, constitue un point d'observation privilégié pour relever le déploiement de cette histoire en mouvement. Mais les peuples de la nuit ne sont pas seulement d'agents en chemin. Depuis toujours, autour de la frontière, il y a une zone grise de trafic et contrebande. Tous les romans de Biamonti en sont affectés. Le caractère principal est celui du passeur, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Dans cet exposé, nous nous bornons à remarquer la différence radicale entre diverses façons d'entendre et pratiquer ces délicats métiers. Dans le monde littéraire biamontien, se dessinent des postures éthiques différentes et inconciliables, même opposées. Par exemple, le protagoniste de Vento Largo, Vary, est un passeur honnête qui n'a jamais laissé personne au-dessous de la frontière, contrairement à d'autres, bien déshonnêtes. De même dans notre présent, d'un côté, il y a des passeurs sans scrupules. De l'autre, des personnes qui savent percer la frontière plus ou moins en sécurité, sans en tirer avantage. Ainsi, la lecture de Biamonti, sa mise en récit des passages de la frontière, nous invite à réfléchir, entre autres, sur l'existence de différentes races de passeurs, au-delà de la surface des préjugés. Dans la bénéaminienne tempête de l'histoire, il peut donc encore y avoir quelque chose d'humain, qui peut-être résister au chaos, aux incontemporains, à la cruelle loi du profit au détriment des plus faibles. Assurément, Biamonti en était à la recherche. Pour conclure, on peut en déduire que dans les paysages des frontières biamontiennes, le peuple de la nuit et de la faim représente la vive occasion pour découvrir à nouveau l'ancien Pietas méditerranéen, pierre de touche d'une noble culture en train de disparaître. Dans cet obscur interrègne entre les crépuscules de l'ancienne civilisation grecque et phénicienne, de l'olivier et de la mer, et peut-être l'aurore d'une autre civilisation qui toutefois on n'arrive pas encore à voir, nous, dit Biamonti, non sappiamo più pensare il reale, e loro, i migranti, sono la perpetua accusa. J'ai traduit. Nous ne savons plus penser le réel et les migrants en sont l'accusation perpétuelle. Ainsi, le mouvement des peuples de la nuit pourrait et devrait être saisi comme une opportunité pour devenir conscient de l'interconnexion de ce monde commun et pour y imaginer de nouvelles formes de coexistence.